Europe 1, il est 22h. Europe Nuit,
Alexandre Lemaire.
Bonsoir, le coup de pouce était très attendu. Jean Castex annonce un chèque de 100 euros pour compenser l'envolée des prix à la pompe. 38 millions de Français vont le toucher. Tous les détails dans un instant. La tempête Aurore a semé la pagaille sur les voies ferrées. Arbres couchés, toitures arrachées et encore ce soir, des milliers de foyers sans électricité. La mesure divise. Les députés ont donné leur feu vert au gouvernement pour lever le secret médical à l'école. Il s'agit de savoir qui parmi les enfants est vacciné et qui ne l'est pas. Une conséquence du Covid, mais pas seulement, l'absentéisme au travail a explosé l'année dernière. Il suit la même trajectoire cette année. 10 mois de prison avec sursis requis contre Karim Benzema dans l'affaire de la sextape. La décision sera rendue demain. Vous entendrez la colère de son avocat. La météo, il va faire frisquet demain matin, nous dira Marlène Duret. L'invité éco à 22h20, Roxane Varza, directrice du campus de start-up La Station F à Paris. Et on jettera un coup d'œil enfin aux unes des quotidiens demain matin. C'était donc l'annonce la plus attendue de la semaine pour le pouvoir d'achat. Jean Castex a mis fin au suspense, dévoilant ce soir sur TF1 la mesure du gouvernement contre la flambée des prix à la pompe.
Nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois, à chaque Français. Qui ? Peut-être un peu plus précis, les gens qui travaillent, les salariés, les indépendants, les artisans, les agriculteurs, effectivement les chômeurs en recherche active d'emploi, les retraités aussi avec cette condition de ressources, ils n'auront rien à faire. Ce sera automatique.
Jean Castex ce soir sur TF1. Un chèque de 100 euros donc versé à partir de décembre, mais tout le monde n'en profitera pas pour Noël. Les salariés devraient le toucher juste à temps, mais les fonctionnaires en janvier seulement et les indépendants, chômeurs et retraités encore un peu plus tard. Le ciblage des bénéficiaires est large, ils sont 38 millions. Comme toujours, bien sûr, c'est rageant pour toutes celles et ceux qui se situent juste au-dessus de la limite. Jacques Serey, pourquoi le gouvernement l'a-t-il fixé justement à 2000 euros net par mois ?
Eh bien, l'exécutif s'est tout simplement arrêté sur le salaire médian des Français. Il y a autant de Français à toucher plus de 2000 euros net que de Français à être sous ce barème. Une baisse générale des taxes sur le carburant aurait concerné tout le monde, sans distinction. Là, cette mesure permet pour le gouvernement de cibler ceux qui en ont le plus besoin de cette aide, tout en voyant large pour ne pas oublier la classe moyenne. Au total, vous le disiez, 38 millions de Français sont donc concernés par cette mesure. Autre explication sur cette somme de 100 euros. Là aussi, l'exécutif a procédé à un calcul. Sur l'année, le litre de carburant coûte 9 centimes de plus à la pompe et les Français roulent en moyenne 14 000 km par an. Les conseillers de Bercy ont sorti leur calculette. Les hausses des prix du carburant représentent en moyenne 80 euros de surcoût pour les automobilistes français. D'où ce chèque arrondi finalement à 100 euros pour inclure plus globalement l'inflation. Indemnité inflation, c'est d'ailleurs le nom de cette aide. L'exécutif ne l'appelle pas chèque carburant, même si c'était initialement sa visée. L'enjeu est de ne pas apparaître pour un gouvernement qui subventionne la consommation d'énergie polluante, alors que la protection de l'environnement occupe aussi une place de plus en plus importante dans les préoccupations des Français. Le choix des mots, l'ampleur de l'annonce. Alexandre, nous sommes bien à 6 mois de la présidentielle.
Merci Jacques Serey du service politique d'Europe 1. Autre annonce du Premier ministre en faveur du pouvoir d'achat. Le prix du gaz sera finalement bloqué pour toute l'année prochaine et non plus seulement jusqu'en avril, la décrue des tarifs du gaz s'annonçant plus lente que prévu. On apprend ce soir le placement en garde à vue de Rémi Daillet, figure de l'ultra-droite en France, défenseur des thèses complotistes et connu des services de renseignement. Rémi Daillet placé en garde à vue, donc, il est soupçonné de projets de coup d'État et d'attentat. Renseignez-vous bien si vous devez prendre le TGV demain ou ce week-end. Un appel à la grève va perturber la circulation des TGV atlantiques à l'heure des départs en vacances de la Toussaint. Un train sur 10 sera annulé demain et un train sur 3 ce week-end. Une Sudrail, la CGT et la CFDT ont déposé ce préavis de grève pour les salaires et les conditions de travail. La tempête Aurore fait encore parler d'elle après la nuit tombée. Les rafales de vent ont fait du dégât sur leur passage de la Bretagne à l'Alsace, de nombreux arbres et toitures arrachés. La circulation des trains perturbée en Normandie, où la SNCF conseille de reporter ses voyages. Pierre Aubry est le premier adjoint au maire de Fécamp, sur la côte d'Albâtre, où la tempête a laissé des traces.
On a déploré des chutes d'arbres,
des câbles téléphoniques qui ont cédé par la chute des branches ou des arbres. Ça a entraîné des pannes de l'éclairage public, et ce qui fait que on a été victime de nombreuses coupures d'électricité, ce qui a signifié pour nombreuses familles quand même le petit déjeuner à la bougie, ce qui est agréable, mais pas quand ça dure trop longtemps. On a malgré tout, suite à ça, quelques inquiétudes sur des arbres. Donc les services techniques ont passé leur journée à vérifier certaines branches, certains arbres qui menaçaient ou qui le sont encore, qui sont menaçants. Et on a encore quelques inquiétudes concernant des hangars et des bâtiments, puisque certaines toitures ont pris un tout petit peu de jeu au niveau de leur tôle de couverture, par exemple.
Pierre Aubry, premier adjoint au maire de Fécamp avec Thibaut Hue, et sans doute aussi un dîner à la bougie ce soir dans 40 000 foyers qui restaient privés d'électricité en début de soirée sur la moitié nord. Un dégât plus surprenant, pour ne pas dire préoccupant, en Vendée, c'est une pale d'éolienne qui a été arrachée par le vent dans le parc éolien d'Auzet qui a aussitôt été mis à l'arrêt. Heureusement, pas d'habitation à proximité. Que les vaccinés lèvent le doigt, le gouvernement veut lever le secret médical au collège et au lycée. Son amendement a été voté la nuit dernière à l'Assemblée. Il doit permettre de savoir qui parmi les élèves est vacciné et qui ne l'est pas. La mesure ne fait pas l'unanimité chez les chefs d'établissement. Pour quelle raison, Virginie Riva ?
Alors, jusqu'à maintenant, c'est une donnée que seule l'assurance maladie avait, protection du secret médical oblige. Si l'amendement est adopté, le principal ou le proviseur, nous dit-on en rue de Grenelle, serait seul au courant et pourrait par exemple discrètement écrire aux parents ou les appeler pour leur conseiller de faire vacciner leur enfant. Pour Bruno Bobkiewicz, secrétaire général adjoint du SNPDEN, le syndicat des directeurs d'établissement, pas d'opposition de principe, mais il ne comprend pas l'opportunité d'une telle mesure.
À ce stade, c'est quelque chose qui est un peu déconnecté du besoin. La question pourrait se reposer si jamais l'épidémie était amenée à évoluer négativement. Mais là, en ce moment, depuis le début septembre, on fonctionne sans cet accès aux données individuelles, sur la base de l'attestation sur l'honneur des parents, et ça fonctionne très bien.
L'amendement permet également de savoir qui est positif et qui est cas contact. Données plus que précieuses aux primaires où les enfants ne sont pas vaccinés. C'est pour ça que les directeurs d'école, eux, s'en réjouissent. D'autant que dans le nouveau protocole expérimenté dans 10 départements, désormais dès l'apparition d'un cas, on teste tous les élèves, mais on ne ferme plus la classe. Problème aujourd'hui sur le terrain, les directeurs d'école ne peuvent se fier qu'à la déclaration sur l'honneur des parents, sans aucun contrôle des résultats.
Et Virginie Riva. C'est dans un parfum de Polexit que s'est ouvert le sommet européen cet après-midi. L'idée, et peut-être la crainte, que la Pologne imite un jour le Royaume-Uni et quitte l'Union européenne en plein bras de fer avec Varsovie sur l'indépendance de la justice polonaise. À son arrivée à Bruxelles, le Premier ministre polonais s'est toutefois dit ouvert à la discussion.
Nous ne céderons pas au chantage, mais nous sommes prêts au dialogue. Nous sommes contre l'élargissement constant des compétences européennes, mais nous discuterons de la manière de résoudre les différends actuels dans un esprit de compromis et de dialogue.
Voilà, Mateusz Morawiecki, le Premier ministre polonais avec Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1. Alexei Navalny dédie son prix Sakharov à tous les combattants anticorruption, leur souhaitant du courage, même dans les moments les plus effrayants. Le Parlement européen a décerné cette année le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit à cet opposant russe, emprisonné pour une affaire de fraude qu'il juge politique. Des témoignages déchirants au procès des attentats du 13 novembre que vous suivez pour Europe 1, Gladys Laffitte. Aujourd'hui, des proches de victimes se sont succédés à la barre, en particulier des pères de famille brisés par la perte de leur enfant, Gladys.
Oui, et il faut le dire, ces témoignages ont déchiré le cœur de chacun dans la salle d'audience. Ces hommes, voûtés, portent le deuil de leur enfant sur leurs épaules, littéralement. Pour des parents, c'est ce qu'il y a de pire, annonce d'emblée François. Son fils est mort au Bataclan à 38 ans, comme Anne, la fille de Jean, et Hugo, 23 ans, le fils de Stéphane. Tous trois ont d'abord connu l'angoisse des heures de recherche, entre espoir, un poison puissant, et désespoir, dit Stéphane. Et puis la terrible nouvelle, quelque chose s'est cassé physiquement en moi, se souvient-il. Il faut ensuite reconnaître le corps de leur enfant à l'Institut médico-légal. Ce n'était plus ma fille, son esprit s'était envolé. Un visage si triste, elle qui était solaire, décrit Jean, la voix étranglée par le chagrin. Là commence une douleur indicible qui ne nous quittera jamais. Et puis chacun raconte la vie d'après, avancée, en redoutant les fêtes de famille, des pères, des mères. J'ai perdu ce soir-là mon fils, mon ami, ma parcelle d'éternité. Mais je n'ai pas de haine. Si je deviens un monstre, Daesh aura gagné, conclut Stéphane, qui s'est redressé à la barre, comme tous ses pères, d'une incroyable dignité.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre. Le jeune homme suspecté d'avoir décapité son grand-père à Bolène dans le Vaucluse a un lourd passé psychiatrique. Ce meurtre n'a pas de caractère terroriste. Le jeune homme était suivi de longue date avec plusieurs internements d'office. Son état de santé mentale étant incompatible avec une garde à vue, il a donc été interné. L'absentéisme au travail atteint des sommets, phénomène en hausse de 20% l'année dernière. On est sur la même trajectoire cette année, selon une étude du cabinet Grâce à Voix. C'est en grande partie à cause du Covid, Maud Descamps, mais pas seulement.
En effet, le taux d'absentéisme en entreprise était de 4,2% en 2019. En 2020, il était de 5,1%, soit un bond de 20%. Alors cet absentéisme ne touche pas tous les salariés de la même manière. Les non-cadres, par exemple, ont été deux fois plus impactés que les cadres, sans doute parce que les cadres ont eu la possibilité d'être en télétravail. Et puis certains secteurs comme le transport, la logistique ou encore la santé sont davantage touchés par le phénomène. Et puis, il y a eu évidemment beaucoup d'arrêts pour garde d'enfants pendant les divers confinements, mais cela n'explique pas tout. Ce que disent les experts, c'est que le Covid a accéléré des tendances qui existaient déjà, à savoir une certaine usure pour des salariés seniors ou encore un manque de reconnaissance pour certains. Cette hausse de l'absentéisme semble aussi se confirmer pour 2021. Selon un sondage publié par Harris Interactive, entre janvier et mai de cette année, la proportion de salariés arrêtés au moins une fois dans le mois est passée de 10 à 13%.
Merci Maud Descamps du service économie d'Europe 1. La fondation Brigitte Bardot parle d'une journée historique pour le bien-être animal. Vu la tournure des débats, il n'était certes pas acquis que les députés et sénateurs finissent par s'entendre sur cette proposition de loi contre la maltraitance animale. Ils y sont enfin parvenus. La loi devrait donc bientôt être adoptée. Interdiction de la vente de chatons et de chiots en animalerie. Interdiction des élevages réservés à la fourrure. Fin des espèces sauvages dans les cirques itinérants d'ici à 7 ans. Autre mesure également prévue par ce texte, la fin des cétacés dans les delphinariums d'ici à 5 ans. Dans l'affaire de la sextape, le parquet requiert 10 mois de prison avec sursis contre Karim Benzema et 75 000 euros d'amende. L'attaquant star des Bleus est accusé de complicité de tentative de chantage contre Mathieu Valbuena, son ancien coéquipier en équipe de France. Pour maître Sylvain Cormier, l'avocat de Karim Benzema, on a voulu dans cette affaire se payer une star.
On est dans quelque chose d'assez effarant. On nous a expliqué tout le long du réquisitoire qu'il ne s'agissait pas de se payer une star. Eh bien, voyez-vous, c'est exactement ce que l'on a fait. On ne motive pas sa décision, on ne l'explique pas et on requiert une peine absurde, disproportionnée, qui n'a rien à voir avec le dossier. Voilà tout. On s'y attendait un petit peu. C'est toujours difficile pour le ministère public d'abandonner les poursuites après 6 ans de procédure et de reconnaître qu'on a tort. Eh bien, ce sera une belle empoignade à l'audience et nous sommes remontés comme des pendules, je dois le dire, avec mon confrère Antoine Vey, contre ce réquisitoire.
Maître Sylvain Cormier, l'avocat de Karim Benzema au micro européen de Jean-François Pérez. La décision sera rendue demain. Pour aller aux enchères ce jeudi, il fallait de préférence, croyez-moi, un compte en banque très bien garni.
5 200 000 ici dans la pièce, c'est vu. 5 300 000. 500 000. Voilà. J'adjuge à 5 500 000 ici, c'est vu. Adjugé 5 500 000.
5 millions et demi et même 6 600 000 euros avec les frais. Son petit nom, c'est Big John, parce qu'il prend un tout petit peu de place. Hélice Dangean, c'est le plus gros squelette de Triceratops qui vient d'être adopté.
Et oui, c'est le plus grand Triceratops jamais retrouvé, estimé à 1 500 000 euros, mais vendu 4 fois plus cher. Et pour cause, vieux de 66 millions d'années, le squelette est en très bon état, complet à 60%. Il va désormais repartir aux États-Unis où il a été découvert en 2014, puisqu'il a été acheté par un particulier collectionneur nord-américain. Mais on reverra Big John, promet le commissaire priseur, maître Alexandre Gicquello.
Je peux vous garantir qu'un jour ou l'autre, de toute façon, peut-être pas dans cette génération, mais peut-être plus tard, cette pièce ira dans une collection publique, puisque c'est le destin classique des grands objets d'art qui, à travers les générations, soit sont prêtés, soit sont exposés pour des expositions, ou soit définitivement donnés à des musées.
Un grand objet d'art dont la vente bat tous les records en Europe, mais on reste encore loin du record mondial détenu par un T-Rex, vendu l'an dernier à New York pour la modique somme de 32 millions d'euros.
Bon, personne ici n'a les moyens, je vous rassure tout de suite. Hélice Dangean, merci Hélice. L'Astérix nouveau est arrivé par Toutatis. C'est la 39e aventure de l'irréductible Gaulois. Vous n'aurez pas de mal à trouver Astérix et le Griffon. 2 millions d'exemplaires ont été imprimés simplement pour la France. Nous nous sommes glissés cet après-midi au rayon BD d'une grande librairie parisienne. Les clients sont emballés.
Comme j'achète toujours les Astérix, je le prends. Parce que j'ai l'habitude de tous les acheter, je ne suis jamais déçu, donc c'est toujours formidable.
J'ai pas spécialement regardé, en fait, j'ai vu qu'il y avait un nouveau Astérix et je l'ai tout de suite acheté.
Astérix, c'est un peu toute mon enfance. Celui-là, il a l'air assez rigolo. Ça se passe, j'ai pas très bien compris où, je crois que c'est en Russie. Ça se passe du coup dans un peuple avec des Amazones et des femmes guerrières, donc c'est assez rigolo. J'ai hâte de découvrir l'histoire.
Apparemment, c'est très intéressant. Il y a des nouveautés, c'est de l'actualité. Et tout ce qui va avec.
Avec quelques personnages amusants qui sont recopiés de gens connus. Donc il y a Paul Beck, c'est amusant.
J'ai beaucoup de petits-enfants et ils aiment beaucoup Astérix. Donc je complète la collection pour qu'à chaque vacances, ils puissent retrouver un Astérix nouveau.
Voilà, des fans d'Astérix bien à l'heure cet après-midi pour la sortie du nouvel album. Ils étaient au micro de Nina Droff. L'OM a fini sur un nul, 0-0 sur le terrain de la Lazio Rome en 3e journée de Ligue Europa. C'est le 3e match nul consécutif pour les Marseillais. L'OM qui est maintenant à 3 jours d'un classico à domicile. Ce sera face au PSG dimanche en Ligue 1. Le temps pour ce vendredi, demain matin, Marlène Duré, eh bien c'est le retour des gelées.
Oui, il fera frais au petit jour, en tout cas là où le ciel sera dégagé, hein, des gelées. Donc attendu plutôt dans le nord et le nord-est. Hein, il fera entre 1 et 4 degrés ailleurs. C'est quand même plus doux. L'après-midi, on prévoit un minimum de 12 degrés à Nancy. Charleville-Mézières passera de 0 le matin à 13 l'après-midi. 13 degrés également attendus à Clermont-Ferrand, 14 à Lyon, 15 à Paris, 17 à Périgueux, Grenoble, 19 en Avignon et 21 à 23 autour de la Grande Bleue. Du côté du ciel, ça va rester nuageux ce vendredi dans les régions du sud-ouest, massif central jusqu'au Lyonnais. Matinée plutôt grise avec, au fil des heures, une alternance de nuages et d'éclaircies. Petit risque d'averse aussi quand même. Nuages et soleil également près de la Manche et en Bretagne. Ces nuages vont gagner les régions situées au nord d'une ligne Nantes-Strasbourg l'après-midi. Au sud de cette ligne, il fera beau jusque dans la région de Bordeaux, Limoges, au niveau de l'Allier et à la Bourgogne-Franche-Comté. Et puis du beau temps aussi en Provence, Alpes-Côte d'Azur, sur le pourtour du Golfe du Lion. Ah, du côté de la Savoie, de l'Isère et de la Drôme, le soleil sera moins généreux en journée. Ciel voilé en Corse et l'amélioration se poursuivra d'ici à dimanche.
On va suivre ça de très près. Merci Marlène, on vous retrouve à minuit en attendant pour un dernier point météo. Dans un instant sur Europe 1, ce sera Top à Wall Street avec Claire Lemaître. L'invité éco à 22h20, Roxane Varza, directrice de la station F à Paris.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
À 22h18, c'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
Les inquiétudes sont de retour ce soir à Wall Street avec de nouveaux résultats mitigés du côté des entreprises américaines.
Oui, c'est une toute petite baisse à la clôture pour le Dow Jones, moins 0,02%, 35 603 points. Le Nasdaq s'en tire mieux, en hausse de 0,62%. La dégringolade du jour est pour IBM, l'action plonge de 9,5%. Lourde sanction pour le groupe informatique après un chiffre d'affaires trimestriel qui déçoit. C'est nettement mieux pour Tesla, plus 3,2% pour le constructeur automobile après ses comptes, malgré une inquiétude. Les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement pourraient peser sur ses marges dans les trimestres à venir. Ça fait partie des points qui inquiètent beaucoup les marchés en ce moment. Avec l'inflation. Les cours du pétrole se calment un peu. Le baril cède 1,8%, proche des 80 dollars à New York. Et puis le bitcoin retombe de 5% sous les 63 000 dollars. Hier, il avait battu des records historiques à près de 67 000 dollars.
Le CAC 40, Claire, clôture en baisse, il glisse déjà sous la barre des 6700 points.
Oui, le CAC qui perd 0,3%, 6686 points, petit repli et une séance encore très riche en résultats trimestriels d'entreprise. Alors on a quelques déceptions, Eurofins Scientifique par exemple qui chute de plus de 7%. Le chiffre d'affaires du groupe de laboratoire a pourtant grimpé avec les tests anti-Covid, mais les objectifs semblent trop justes. Et puis, petite déception aussi pour Pernod Ricard, après sa publication trimestrielle, l'action 7,05%. Et puis surtout pour Technip, FMC qui lâche 5% ce soir.
Alors ça, c'était pour les déceptions. D'autres résultats, en revanche, ont été bien accueillis.
Oui, c'est le cas du groupe de luxe Hermès, en hausse de 1,4% ce soir. Les ventes ont bondi de plus de 30% à change constant au troisième trimestre. Carrefour progresse également, même si l'activité a baissé, notamment en France, avec l'obligation du pass sanitaire dans les grands centres commerciaux, plus 1,7% pour Carrefour. C'est du rouge ce soir pour les marchés européens. Londres perd 0,4%. 1%, Francfort moins 0,3%, Milan moins 0,2%, Madrid lâche 0,8% et à Paris, le CAC 40 recule de 0,3%, 6 686 points.
Merci Claire de boursier.com. La station F, campus de start-up à Paris, lance un grand programme en ligne pour devenir entrepreneur. Pour en parler ce soir sur Europe 1, l'invité éco est Roxane Varza, directrice de la station F. Elle répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Roxane Varza.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête de la station F. La station F, c'est le plus gros incubateur au monde. C'est quoi un incubateur ? C'est un lieu où sont réunis plein de start-up et vous faites en sorte de leur apporter tout ce qu'il faut pour qu'elles se développent et qu'elles deviennent très grandes. Si nous avons voulu être en ligne avec vous ce soir sur Europe 1, c'est que vous avez lancé aujourd'hui un programme très innovant à destination notamment de tous ceux qui voudraient lancer leur start-up. Vous avez appelé ça Launch, vous l'avez lancé ce matin. C'est un programme 100% en ligne. On pourrait se dire, au moment où on sort de 2 ans de crise, de 2 ans de réunions Zoom, où on en a quand même parfois un peu marre, on va le dire, d'avoir justement des réunions Zoom, d'être derrière son ordinateur, c'est pas un peu bizarre ? On pouvait pas avoir envie de faire un peu plus de présentiel ?
Très, très bonne question. Évidemment, à Station F, on n'est pas contre le présentiel non plus, parce qu'on a notre campus où on reçoit tous les jours des milliers de personnes et plein d'événements et plein de visiteurs. Mais justement, on a lancé ce programme pour toutes les personnes aujourd'hui qui ne peuvent pas venir à Station F, qui n'ont pas leur place encore dans un de nos programmes, pour les accompagner sur ces premiers pas. Donc c'est un programme qui s'adresse aux personnes qui pourraient avoir une première idée ou peut-être ils ont entendu parler de l'entrepreneuriat, ils se demandent est-ce que c'est pour moi. Et là, on les aide vraiment, on les accompagne sur des démarrages de leur activité. C'est vraiment, à partir du moment où on a une idée, comment on arrive à créer une entreprise à partir de ce moment-là.
Mais c'est à destination de qui ? Il faut avoir quoi ? Il faut remplir un dossier ? Il faut déjà avoir une idée de start-up ? Il faut déjà avoir ses partenaires ? Ou il faut juste se dire, bah, j'ai envie de créer une entreprise, pourquoi pas une start-up et je vais me former ?
Exactement, c'est exactement ça. Même des personnes qui n'ont pas d'idée d'ailleurs, juste les curieux qui ont... Peut-être qu'ils ont entendu le jargon, ils disent bah, « qu'est-ce que c'est ?» Ça peut être pour eux aussi. Donc nous, on a envisagé peut-être 3 populations à qui ça pourrait s'adresser, mais vraiment, c'est accessible, ouvert à tout le monde, et j'insiste là-dessus. Mais par exemple, les étudiants aujourd'hui, qu'ils soient en école de commerce ou non, ça peut être assez complémentaire avec ce qu'on voit dans les écoles de commerce, parce qu'il y a une partie pratique qu'on ne va pas retrouver forcément dans les cours. Et aussi pour toutes les autres écoles où on peut aussi avoir des personnes qui souhaitent lancer des entreprises. Je pense que c'est super... adapté à eux. On peut aussi avoir des personnes qui sont aujourd'hui assez éloignées de l'écosystème, ils n'ont pas les mêmes réseaux, ils ne savent pas par où commencer, avec qui il faut prendre contact. Il y a évidemment plein de ressources en ligne qui existent déjà, mais quels sont les bons tuyaux, enfin, ils ne connaissent pas. Donc ça, c'est vraiment pour les guider pour le début. Et ensuite, on imagine aussi peut-être la personne aujourd'hui dans les grands groupes, dans les entreprises qui ont peut-être une idée, est-ce qu'ils lâchent leur poste actuel pour se lancer ? Ben, ils ne savent pas trop. Donc ça, c'est une façon de commencer à se poser les bonnes questions sans devoir forcément abandonner son activité et le faire tout de suite.
Donc l'idée, c'est de se faire une idée hein, d'une certaine manière sur l'entrepreneuriat. C'est un programme payant, 9,90€ par mois, on l'a donc dit en distanciel, mais ce n'est pas des vrais cours. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce qui était à la mode il y a quelques années, ce qu'on appelait les MOOC. C'est des cours enregistrés où on fait à sa guise finalement le programme.
C'est une partie. Ben, j'insiste parce que ce n'est pas vraiment un MOOC non plus. En fait, il y a vraiment tout un parcours, une expérience. Donc, il y a une partie contenu. On est allé chercher les meilleures startups qui se créent aujourd'hui sur tous les différentes thématiques. Ça peut être comment évaluer son marché, comment créer son prototype, comment créer sa proposition de valeur, comment chercher ses premiers clients. Donc, voilà, on a conçu ce contenu avec ces startups-là, les startups comme Swile, comme Conto, comme Payfit, comme Lydia, tous les noms qu'on voit dans la presse actuellement. Deuxième partie, c'est la partie outils. Donc, on est allé chercher les 25 outils qu'on estimait sont vraiment les bases pour lancer une entreprise. Ça peut être des outils de communication pour les équipes, des outils pour créer son design, son identité de marque, des outils pour créer son prototype sans savoir coder. Ça, c'est essentiel. Beaucoup de gens sont bloqués et fixés sur l'idée qu'il faut forcément un cofondateur technique. C'est pas vrai. Et la troisième partie, c'est la partie communauté. Donc là, il y a une directory où on peut potentiellement retrouver son cofondateur, cofondatrice. Ensuite, il y a aussi un énorme Slack, c'est sur le même modèle que Station F, où on peut discuter de plein de différents sujets. Mais par exemple, est-ce que mon idée, c'est la bonne idée? Est-ce que mon marché est suffisamment grand?
Donc on le voit, un programme très large, on peut se faire une idée, on peut même rencontrer ses cofondateurs pour développer sa potentielle start-up. C'est un programme qui va se faire, je crois, aussi bien en anglais et en français. L'idée, c'est qu'il est vraiment accessible à tout le monde. On peut être au fin fond de l'Inde ou de Singapour ou du Japon et on peut y postuler aussi.
Ah bah oui, j'espère bien.
Et vous espérez former combien de personnes? J'ai lu de 5 à 10 000 dès la première année. L'ambition est quand même forte.
Oui, oui. Et on commence déjà à avoir beaucoup d'inscriptions. Donc je pense que c'est pas... surestimé, peut-être c'est même une sous-estimation du nombre de personnes qu'on peut voir cette année.
Qu'est-ce qu'on a au bout? Je crois que ça dure entre 1 et 3 mois en fonction de notre rapidité à absorber toutes les informations qui sont distillées dans ce programme. Mais on a quoi? On a un diplôme? Vous vous engagez derrière à nous aider encore? Comment ça se passe une fois qu'on a fini le programme?
Donc, on peut imaginer des suites différentes. Enfin, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui vont passer par le programme qui vont en fait comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour eux et ça, ce n'est pas grave parce que c'est vraiment un marathon et je pense que beaucoup de gens, peut-être, ils vont se rendre compte de ça en faisant le programme. Mais si quelqu'un souhaite vraiment développer son activité à la suite du programme, il y a plusieurs options. Évidemment, on espère qu'il y en aura qui vont venir à Station F rejoindre un programme chez nous. Il y a d'autres programmes incroyables qui existent partout en France, partout dans le monde. Donc, ils peuvent aussi aller chez d'autres incubateurs, d'autres programmes d'accompagnement. Ou peut-être qu'ils n'en ont même pas besoin. Ils estiment qu'ils ont déjà tous les clés en main. Ils veulent juste continuer leur développement dans leur coin. Ça, c'est aussi complètement faisable.
Vous le lancez à la sortie, entre guillemets, j'espère, de la crise. Le but, c'est aussi d'aller chercher tous ces gens qui, pendant ces moments si difficiles, se sont dit « je veux créer mon propre job, je veux changer de vie ». Ça a accéléré aussi votre idée de lancer ce programme?
Je pense qu'il y a évidemment un peu de ça là-dedans, mais vraiment c'est venu parce qu'aujourd'hui on refuse 91% des startups qui postulent à la Station F pour les raisons qu'on adresse en fait avec ce programme, parce que les personnes n'ont pas d'associés, ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas de prototype, ils ne sont pas bien évalués le marché, ils n'ont pas encore des clients. Donc en fait, c'est vraiment parce qu'on a vu qu'il existait encore ce besoin et quand on posait la question à ces personnes, en fait, vous avez l'idée, pourquoi vous avez développé l'entreprise de telle façon, ils disent, en fait, on ne savait pas trop comment faire. Donc, même avec toutes les ressources qui existent aujourd'hui, les gens sont toujours peut-être un peu perdus. Et donc, c'était vraiment pour les guider sur ce début de l'histoire.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Roxane Varza, la patronne de la Station F, le plus gros incubateur au monde. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nous, on se retrouve lundi 22h20 sur Europe 1.
Et merci à vous, Emmanuel Duteil. On vous retrouve demain de 13h à 14h également pour La France Bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag. À l'occasion d'Octobre Rose, votre invité sera le nouveau président de la Ligue contre le cancer.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Voyons ensemble les unes de la presse pour ce vendredi matin. C'est bien sûr l'information de la soirée. Elle concerne le pouvoir d'achat avec un chèque quoi qu'il en coûte, titre Les Échos, quoi qu'il en coûte après le pire du Covid, mais 6 mois avant la présidentielle. C'est donc une indemnité inflation de 100 euros qui sera versée à 38 millions de Français à partir de décembre. Plutôt qu'un chèque carburant, l'exécutif élargit la cible aux personnes gagnant moins de 2000 euros net. Après le bouclier énergie, cela représente une nouvelle facture de 3,8 milliards d'euros pour l'État. Eh bien, il se niche là, voilà, le quoi qu'il en coûte. L'école désarmée face à la montée de la violence, titre Le Figaro demain matin. Enseignants agressés en classe, rixes entre élèves armés, harcèlement dans les murs et hors les murs, les établissements du secondaire peinent à endiguer une vague de brutalité inédite. Libération vous propose un reportage au Mali. Le Mali qui vit, vous le savez, le crépuscule de l'opération Barkhane de Tessalit à Gao, dans le nord du pays, dans le nord du Mali. Donc, les envoyés spéciaux de Libé ont suivi le retrait de l'armée française, décision rendue par Emmanuel Macron en juin dernier. Et puis, le couple à l'ombre du Covid, à la une de 20 minutes, la crise sanitaire bouleverse la vie à deux, assure le sociologue Jean-Claude Kaufmann. Il est 22h30, pile, vous êtes sur Europe 1. On retrouve immédiatement Olivier Delacroix. Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Prêt pour la libre antenne?
Je suis prêt, comme tous les soirs.
Bien installé. Je vous laisse la place.
Eh bien écoutez, toute chaude.
Exactement.
Et on se retrouve tout à l'heure pour votre flash à 23h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure Alexandre.